Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 9 d'Atypique, j'ai le plaisir de recevoir une amie, Isabelle Ablin, ancienne éducatrice spécialisée devenue praticienne en hypnose, puis fondatrice de KiddyMind. Isabelle partage son parcours depuis son travail dans des institutions sociales et médicales jusqu'à la création de son propre cabinet d'hypnothérapie et finalement la création de cours en ligne pour les thérapeutes spécialisés dans les enfants et les adolescents. Nous parlons de la capacité d'Isabelle à passer à l'action malgré les peurs et comment elle muscle cette compétence au quotidien. Nous partageons notre vision du marketing et de la communication pour sortir des clichés négatifs. Découvrez le parcours d'Atypique d'Isabelle qui, comme Chloé Elsener, est plus qu'une collègue et une connaissance pour moi, c'est une source d'inspiration, d'échange et de remise en question. Isabelle est toujours inspirante, authentique, directe et percutante, tout en restant à l'écoute et agréable dans les choix de ses mots. C'est un modèle de posture dans la vie personnelle et professionnelle et je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de ce podcast et d'Isabelle. Salut Isabelle, ça va ?
Salut, ouais, salut Laurent, bien
ça
et
va,
toi ?
Ça va, ça fait plaisir de te voir. Pareil, on se connaît bien depuis un petit moment. Alors, c'est les premiers podcasts, c'est souvent les gens que je connais. Puis après, il y a des gens que je connais pas du tout. Et donc, c'est pas forcément le même temps que tout ça. Mais je suis super content de t'avoir. En plus, tu as un parcours qui est intéressant. Donc, tout le monde a un parcours intéressant, mais le tien, je le connais bien. Donc, tu me présentes un petit peu. Tu dis d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas, dans quel état t'es.
Ouais, ok. Écoute, déjà, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup, c'est chouette. Par quoi commencer ? J'ai 45 ans. J'ai grandi dans la région lyonnaise et je vis depuis un peu plus de 20 ans maintenant, ou 20 ans tout juste, je ne sais plus, en Provence, entre Aix et Avignon, avec mon mari et mes deux filles qui ont 10 et 14 ans. J'ai un parcours dans j'étais éducatrice spécialisée au départ de formation initiale, donc j'ai travaillé une petite vingtaine d'années en institution sociale et médico-sociale, au départ en tant qu'éduxpé, ensuite en tant que chef de service éducatif. Et puis j'en ai eu marre de la lourdeur institutionnelle et de tout ce qui va avec, de la lenteur, de l'inertie qu'on peut trouver avec les institutions. Et je me suis intéressée à l'hypnose au départ absolument pas pour en faire un métier, plus par curiosité. Et donc, j'ai réussi à faire financer ma formation par ma boîte quand j'étais chef de service. Et quand j'ai démarré la formation, je me suis dit « Waouh ! Ah mais c'est trop bien ! C'est génial cet outil-là !» Si tu veux, ça m'a ouvert tout un pan que je connaissais pas, qui était celui aussi du développement personnel. Et en fait, assez vite, j'étais à un moment de ma carrière où j'en avais un peu ras-le-bol et je m'étiolais dans ce que je faisais. Et donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je me suis installée en tant que hypno en libéral. Et puis, ça c'était en 2016. Et puis, quelques années plus tard, le Covid est arrivé. Et avec lui, l'opportunité que j'avais d'avoir du temps et de développer un truc qui me tenait à cœur déjà depuis longtemps. Et j'ai créé KiddyMind, qui s'appelait pas comme ça, enfin qui s'appelait pas, il n'y avait pas de nom à l'époque. Et donc, ce sont des formations en ligne pour accompagner les thérapeutes à adapter l'hypnose pour les enfants et les ados, parce que je m'étais assez vite spécialisée auprès de ce public-là que je connaissais bien de part de mon parcours d'éduxpé. Voilà. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus que cette casquette-là au sein de KiddyMind. J'ai arrêté le cabinet depuis quelques mois.
On va y revenir sur ton parcours. Et tu as aussi... tu as lancé quelque chose de nouveau aussi autour du développement d'activité, du marketing. Tu veux en parler ou c'est un secret peut-être ou pas ? Non.
Non, c'est pas un secret du tout. Non, parce que je l'ai annoncé. Ouais, c'était un truc que j'avais en tête depuis un moment, parce que c'est vrai que déjà avec l'activité en tant que hypno, je me suis assez vite intéressée à tout ce qui était communication, marketing, etc., qui est pas du tout mon domaine. Et j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment une partie qui m'a beaucoup plu, autant que l'accompagnement, je pense. Et bref, et c'est vrai que là, avec le développement de KiddyMine, j'avais quand même pas mal de collègues qui me disaient « Oh là là, mais j'aimerais pouvoir créer des trucs en ligne, etc. » Mais voilà, quand je repense au temps auquel j'ai passé à me former, parce que je me suis énormément formée pendant des années, en fait, pour apprendre tout ce que je savais. Et en plus, comme c'était pas mon domaine, bah, j'ai pas mal galéré, je me suis beaucoup appuyée sur des tutos, des bouquins, et donc je me suis dit bah ça serait pas mal de créer un truc en fait dans lequel je partage tout ce que je sais en fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais au quotidien maintenant avec KiddyMine, toutes les erreurs que j'ai faites et qui m'ont coûté du temps, de l'argent, et donc j'ai lancé ça en formule bêta en fait, en disant bah voilà, ce que je vous propose c'est de je vais créer 12 formations, donc une par mois sur une année. Chaque formation va venir faire un focus sur un point qui me paraît essentiel pour développer une activité en ligne. Et donc, si le projet vous branche, vous embarquez avec moi. Le tarif était hyper accessible. En gros, les gens payaient l'équivalent de ce que sera le tarif d'une seule formation sur les 12. Donc, c'était quand même hyper intéressant. Et puis avec des lives, un espace pour échanger, etc. Histoire que moi, je puisse vraiment améliorer ce que je propose avec les retours de ces premières personnes. Et ensuite, pouvoir vendre chaque formation séparément par la suite. Donc là, on a démarré en février-mars. Voilà, j'ai publié la deuxième formation, là, il y a quelques jours. Et les premiers retours sont plutôt très, très chouettes. Donc c'est cool. C'est un sacré challenge, parce que c'est beaucoup de temps. Mais c'est chouette.
J'imagine déjà une formation. Après, je sais pas quelle taille ça fait, mais même une heure et demie à faire, à construire la pédagogie, réfléchir au truc, ça doit être une charge de travail non négligeable. Je sais pas comment tu gères ça.
Alors, en fait, si tu veux, j'ai mes grandes lignes. Là, la première formation, les deux d'ailleurs, font à peu près 4 heures. Il y a 3 heures et demie, 4 heures de contenu. Et en sachant que la première formation, j'ai eu plein de questions qui sont arrivées. Et donc, j'ai refait toutes les réponses, je les ai tournées en vidéo, en fait. Donc, du coup, c'est venu rajouter 1 heure et demie ou 2 heures de contenu sur la première. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez dense. Après, moi, je ne scripte rien. J'ai les points principaux que je veux développer. Et par exemple, pour la première formation, je suis partie d'une mind map. Et donc, j'ai noté, moi, tous les points que je souhaitais aborder. Dès que ça me venait, hop, j'allais rajouter dans la mind map. J'avais fait un questionnaire en amont aussi auprès des collègues pour savoir quelles étaient leurs attentes. J'ai repéré aussi beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. Et donc, j'ai fait tout un focus sur ces croyances-là, parce que ça me paraissait important de le faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, j'avais mes points. Et donc, je parle, j'allume ma caméra, je filme mon écran avec ma mind map et je déroule comme ça me vient et comme j'expliquerai en direct à quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est un format qui est quand même assez... qui reste assez dynamique, je pense, même si les gens sont derrière leur écran, tu vois.
Ouais, c'est un format que j'aime bien aussi. Il y a quelques formateurs qui font ça, en train de préparer quelques trucs, c'est aussi un format que je vais utiliser. Je trouve que c'est plus simple et mine de rien plus dynamique qu'une vidéo ou trois PowerPoint. Non, c'est chouette. Okay, bon. Pour ceux que ça intéresse, donc je mettrai les liens de ce que fait Isabelle sur KiddyMine et je pense que là, les portes sont fermées, je pense, ton truc, non? Ou c'est encore ouvert?
Ouais, là, les portes sont fermées. Voilà, ouais. Le mieux, c'est de me suivre sur mon compte Insta de Isabelle Ablin, pas de KiddyMine, où j'en parlerai à ce moment-là, quoi.
Alors, moi, j'ai plein de questions. Alors, commencer par la première qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé, que tu t'es mis pas à l'hypnose, mais à Educator Spé? C'est quoi le...
En fait, je pense que... oui, vas-y.
C'est peut-être personnel, hein, tu réponds que si tu as envie de...
Non, c'est complètement OK. C'est pas un truc qui m'est venu tôt, éducateur spécialisé, parce que au départ, je voulais être notaire. Et en fait, tu vois, des fois, je repense à cette période. Ouais. Donc ça, c'est quand j'étais ado, tu vois. Et régulièrement, j'y repense et je me dis, chaque fois que je disais que je voulais être notaire, j'avais souvent des retours de gens qui me disaient, oh là là, notaire, c'est compliqué, c'est difficile. Bon, donc je sais pas si c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour moi. Mais voilà, en tout cas, il y avait un truc, autre chose qui était là, qui était, j'ai toujours été un peu celle qui écoute les autres, qui va aider, qui va essayer de trouver des solutions, au détriment de moi-même, hein, pour, je pense, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis, je sais plus, ça devait être pendant que j'étais au lycée où j'ai commencé à m'intéresser au métier de l'accompagnement. Et effectivement, j'ai découvert ce métier d'éducateur spécialisé et je me suis dit, mais ça, c'est clairement un truc que j'aimerais faire. Et qui, je pense, ça, je l'ai compris après, en fait, une fois que j'étais en formation, parce qu'on se dit souvent qu'on n'est pas dans l'accompagnement par hasard, hein, mais qui, je pense, était une manière pour moi de venir réparer quelque chose de mon enfance, de mon adolescence, où j'ai grandi dans un climat familial qui pouvait être compliqué, avec de l'alcoolisme, avec une forme de violence, alors pas physique, mais verbale, psychique. Alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi plein de chouettes moments, mais ça a fait partie de mon quotidien. Et je sais que quand j'ai démarré ma formation d'éduc, très vite, en fait, on nous amène là-dessus, sur, bon, ok, vous êtes là en formation, mais vous n'êtes pas là pour réparer votre passé, donc allez bosser ça à côté. Donc ça, c'était vraiment important. Mais il y avait quelque chose de cet ordre-là, puisque de toute façon, mes premières expériences, je suis allée bosser en protection de l'enfance, je pense que clairement, c'était pas pour rien, parce que probablement que si quelqu'un s'était un peu trop occupé de ce qui se passait chez moi quand j'étais petite, j'aurais probablement pu me retrouver en maison d'enfant à un moment donné, tu vois, par rapport à ce qu'on pouvait vivre. Mais voilà, et donc c'est parti de là, c'est un truc que j'ai beaucoup bossé, et notamment par rapport à cette question de, tu sais, cette question de la juste place, de la juste distance qu'on nous assène beaucoup. Ouais. En tout cas, en formation d'éduc, il faut que vous restiez, voilà, pas trop proche. Et c'était un concept avec lequel j'avais quand même du mal parce que je trouvais que, bah, à un moment donné, quand tu bosses en institution avec des gamins qui ont un parcours de vie complexe, tu peux pas juste être dans la posture de l'éduc. Et donc, forcément, il y a des choses qui se jouent au niveau de l'attachement, etc. Et je me souviens qu'il y avait un de mes premiers formateurs, Philippe Gabran, qui a beaucoup écrit sur le métier d'éducateur spécialisé et qui lui expliquait que c'est pas tant la place et la distance en fait le problème, que de toute façon on est engagé dans l'accompagnement avec notre moi professionnel et notre moi personnel, les deux sont adossés, on peut pas les séparer, parce qu'on accompagne déjà avec qui on est, sauf que quand on est professionnel, bah, on a des outils, on a une posture, etc. Et que ce qui lui paraissait important, et c'est un discours auquel j'ai vraiment adhéré, c'était de dire, on peut à un moment donné rentrer dans la relation et laisser entrer une forme d'affect. Mais ce qui reste important, ce qui est important, c'est de savoir de quelle place on parle, tu vois, pour pouvoir toujours recadrer finalement. Et ça, c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui et qui m'a suivi ensuite quand je me suis installée en libéral en tant qu'hypno, tu vois, dans mes accompagnements, où je me suis toujours autorisée et de plus en plus, et peut-être même bien plus, enfin, c'est pas peut-être, c'est certain, même bien plus quand j'ai été en libéral et plus en institution où je me bridais par rapport au travail d'équipe, au regard des autres, etc. Et je sais que quand j'ai accompagné et que je me disais, ok, bah là, je peux accompagner comme je veux, en fait, là, c'était vraiment chouette parce que je pouvais être complètement moi-même en sachant à chaque fois de quelle place je parlais. Moi, j'ai toujours attaché une grande importance au cadre, aux limites. J'ai fait tous mes mémoires là-dessus, monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée, chef de service. À chaque fois, ça parle des limites et du cadre. C'est un truc avec lequel je bassine les membres de KiddyMind. Mais parce que je pense que quand on a un cadre qui est très clair et très solide, on peut tout se permettre, en fait, dans ce cadre. Et ça permet aussi des choses fantastiques dans l'accompagnement, quoi. Ouais, j'ai un peu dévié, je crois, par rapport à la question initiale.
Non, c'est très bien. On se connaît bien, mais tu sais que c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, enfin, que la posture, le cadre, etc. Et puis, c'est pas toujours facile de trouver cette frontière entre l'engagement dans l'accompagnement, la relation, mais en même temps, une distance. C'est un sujet qui est complexe, mais qui est essentiel. Et puis, je pense aussi qu'il demande beaucoup d'expérience, d'exploration de soi, parce que. Et quand tu dis je suis moi-même en séance, on pourrait écrire un bouquin sur ça veut dire quoi être soi-même en séance, soi. Je dérive aussi un peu, mais pour être soi, faut se connaître. Sinon, tu peux être dans tes biais, tu vois, dans tes projections. C'est des sujets qui sont hyper hyper denses et complexes. Encore plus, je pense, avec les enfants. Mais ça, c'est des sujets que tu abordes beaucoup. Les enfants, il y a plein de gens qui disent que c'est plus facile parce que les enfants sont peut-être un peu plus malléables avec l'hypnose, ils ont plus d'imagination, tu vois. Mais ça reste un sujet qui est, à mon sens, qui est difficile. Je vois beaucoup de gens qui se disent, moi j'accompagne les enfants, mais qui ne sont pas formés, qui n'ont pas forcément ton expérience que toi tu as pu avoir avec ta formation EduxP, ton expérience dans le travail. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est probablement parmi les sujets les plus complexes, les enfants, est-ce qu'il faut gérer la systémie, bon. Enfin, tu sais ça mieux que moi, mais c'est des sujets qui sont essentiels. Mais quand tu as commencé l'hypnose, quand tu as quitté EduxP, bon, il y a l'institution, les limites qui t'ont fait partir. Après, tu as tout de suite accompagné les enfants ou comment ça s'est passé ton début de la pratique en hypnose, le développement de ton activité et qu'est-ce qui t'a amené à KiddyMind? Ça a été progressif ou ça a été un truc instantané?
Alors, j'ai pas accompagné tout de suite les enfants parce que quand j'ai démarré, en plus j'étais encore chef de service, donc j'étais encore salariée. Mais si tu veux, je suis sortie de formation, j'ai été certifiée fin janvier, je crois le 6 ou 7 février, j'avais mon premier client pour un arrêt tabac. C'était une catastrophe d'ailleurs. c'était juste horrible. Là, en fait, tu te prends de plein fouet la réalité avec une vraie personne, en tout cas un vrai client qui vient, qui a des attentes, qui paye, et toi qui es là et qui a pas un formateur et des stagiaires qui sont en transe toute la journée autour. Et là, tu fais wow. Ok, moi c'est venu beaucoup me secouer à plein de niveaux parce que n'ayant connu que le travail en institution, tu te poses pas du tout ces questions-là en fait. C'est pour le coup le rapport est extrêmement différent. Mais pour répondre à ta question sur les enfants, j'ai assez vite ouvert les accompagnements. Je me souviens plus exactement à quel moment. Mais j'ai assez vite ouvert les accompagnements auprès des enfants, mais je voulais pas me limiter aux enfants. Par contre, j'ai assez vite centré ma com au départ sur l'arrêt tabac, parce que je m'étais dit ça va générer du bouche à oreille et ça va me permettre de me faire connaître, et en parallèle sur les enfants. Et donc j'avais ces deux focus com qui m'ont permis de développer ce que je voulais. Et en fait, je suis restée salariée et hypno entre février et septembre, puisqu'en septembre, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Et donc, je me suis installée, pas à plein temps. Je travaillais trois jours et demi par semaine, parce que je voulais garder du temps pour mes filles. Et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai développé cet accompagnement-là, cette spécialité-là auprès des enfants et des ados, parce qu'il n'y en avait pas, en plus, tu vois, en 2016. Il y en avait très, très peu. Et l'hypnose commençait à être de plus en plus médiatisée et je voyais bien qu'il y avait des choses à faire. Alors, c'est vrai que ma casquette d'EduxP, je sentais qu'elle était très rassurante. J'avais pas mal de parents qui me disaient « Ah, voilà, l'hypnose, c'est un truc qu'on regardait depuis un moment, mais on a vu que vous étiez éducatrice spécialisée, donc... Donc voilà, je sentais que c'est un truc qui m'a aidée aussi, mine de rien, au départ. Et par rapport à KiddyMind, c'est venu progressivement, mais en même temps, je me souviens, tu vois, sur ma formation de Pratt 1, on avait Jordan Véro qui était venu nous faire une journée de formation. Et je me souviens que il avait dû faire un podcast avec toi d'ailleurs sur la magie, enfin l'hypnose avec les enfants, quelques temps auparavant.
Ouais.
Et donc je lui avais dit, est-ce que tu aurais des tips pour accompagner les enfants? Parce qu'en fait, moi, quand je suis sortie de formation, enfin même au fil de la formation, assez vite, je me suis dit putain, mais c'est quand même génial comme outil. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça quand j'étais EduxP? Qu'est-ce que ça aurait été chouette aussi que j'ai certaines de ces connaissances quand j'étais plus jeune pour traverser certaines difficultés, tu vois. Et donc, je me souviens que j'étais encore en formation et j'avais demandé à Jordan, mais comment tu fais pour bosser avec les enfants? Donc, il m'avait filé quelques tips. Donc, ça a toujours été là, en fait, ce truc. Et puis, ce qui a fait que j'ai commencé à me dire, bah tiens, ça serait peut-être pas mal de créer une formation, c'est que j'avais beaucoup de collègues qui me disaient, mais bon sang, comment tu fais pour accompagner les enfants? Moi, je me vois mal appliquer ce que j'ai appris en formation. Ça va vite être chiant, j'ai peur de pas savoir gérer les parents, etc. Donc, c'était, voilà. Et puis, moi, c'est vrai que je répondais assez facilement à ces questions-là. Donc, c'était dans un coin de ma tête, mais énorme trouille de pouvoir me projeter en tant que formatrice là-dessus, tu vois. Sauf que en parallèle, bah, comme je te le disais, je m'étais intéressée à tout ce qui était marketing, communication et formation en ligne, puisque j'ai découvert, je pense, en 2013, 2014 peut-être, à l'époque, Olivier Roland avec ses blogs, Alexandre Ross, enfin... tout cet écosystème des infopreneurs, et où à l'époque je me disais, mais vraiment, on peut vivre d'un blog, vraiment, on peut vivre d'un truc en ligne. Ça me paraissait assez fou. Donc, si tu veux, tout ça est arrivé, c'était complètement décorrélé, mais il y a eu un moment, bah, avec l'arrivée du Covid, où je me suis dit, bon, bah là, en fait, c'est maintenant, quoi. C'est-à-dire que tu sais accompagner les enfants, tu sens qu'il y a une demande. T'as des connaissances en marketing, en communication. J'avais exploré 20 fois les plateformes d'hébergement comme Learnybox pour voir un peu ce que je pourrais faire un jour. Donc, tout était là, en fait. J'avais tout entre les mains pour créer le truc. Et donc, au premier confinement, j'ai créé un groupe Facebook en disant, bon, bah, si y en a qui sont intéressés, on peut se retrouver pour en parler. J'ai partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, mais pas encore la formation. Je pense que j'avais un peu la trouille, hein. En même temps, je me souviens même les premiers trucs que je publiais, mais c'était horrible, hein. Je passais par toutes les couleurs. Je dis pas le festival émotionnel de me dire putain, je poste un article, ça va être lu. Je m'expose à la critique, quoi. Donc c'était très très dur. Et puis deuxième confinement en octobre, et là je me suis dit bon bah il y aura peut-être pas d'autres occasions. Et puis, j'ai eu plein de signes, si tu veux, les jours précédents avec plusieurs collègues qui m'ont dit « Bon, quand est-ce que tu sors une formation? Tu fais pas de la supervision ?» nanana. Donc, j'ai interprété ça comme des signes qui me disaient « Bon, là, il faut y aller. » Et je me souviens avoir dit à mon mari, c'était la veille des vacances d'octobre, je crois, et je lui dis « Bah, demain, je vends ma formation. » Et il me dit « Mais t'as pas de formation. » Et je lui dis « Bah non, mais j'ai créé une page de vente. Je l'annonce demain. Je vais ouvrir 20 places. Je vais dire aux gens qu'on démarre 15 jours après. Et si j'ai qu'une seule personne qui me l'achète, bah je serais bien obligée de la faire de toute façon. » Mais j'avais besoin de ça, de me mettre au pied du mur, en fait, pour y aller. Sinon, j'y serais jamais allée. Et du coup, le lendemain, j'ai lancé la page de vente à 7h. À 7h01, j'ai fait la première vente et c'était complet en 3 jours. Et là, tu fais passer l'euphorie de te dire waouh. Donc je vendais c'était 250 euros à ce moment-là. Donc passer l'euphorie de te dire waouh, je viens de faire 5000 balles en 3 jours pour un truc qui n'existe pas, que j'ai pas créé. Où tu te dis c'est quand même assez fou. Et puis après tu te dis ah oui bon ok maintenant il va falloir livrer. Voilà. Et donc ça a démarré comme ça.
C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, moi c'est ce que j'ai fait avec tous mes produits. Hein. J'ai lancé tous mes produits à vide, donc juste l'idée.
Mm. Oui. C'est ça.
Sinon c'est. Mais c'est vrai que ça fait l'effet. Ouais, c'est cool. Ah merde, il faut que je fasse des trucs. Mais ça force la contrainte et le fait de devoir quelque chose aux gens met dans une bonne dynamique. Donc c'est vraiment, ça revient souvent. Le Covid a fait bouger beaucoup de gens, les a obligés entre guillemets à dépasser leurs peurs, leurs doutes, parce que bah, t'avais pas le choix, t'es confiné. C'est une bonne contrainte pour plein de gens, mine de rien. Enfin, je dis pas que le Covid c'était bien, mais c'est un truc qu'il y a quasiment tout le monde qui s'est mis du jour au lendemain. Moi, avant le Covid, en supervision en ligne, truc en ligne, j'étais quasiment tout seul hein, dans le milieu. Et maintenant, il y a quasiment tout le monde. Donc c'est plutôt chouette pour ceux qui sont développés. Mais tu t'as dit beaucoup, j'avais peur, mais t'as fait quand même. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait quand même, alors que tu avais la trouille au ventre. Je t'ai suivi, je t'ai suivi un petit peu. Enfin, on se connaissait déjà un peu à l'époque. Je me souviens un peu de comment tu as pu traverser ça, les questions que tu t'es posées, les peurs, les doutes, enfin, tous ces sujets qu'on traverse tous, quelque part, mais ou presque. Qu'est-ce qui, toi, te fait passer quand même à l'action? Qu'est-ce qui te fait gérer ces difficultés, la peur et y aller quand même?
Je pense que c'est vrai que le passage à l'action, c'est une de mes grandes forces. Et en plus, je sens que c'est un truc que je muscle au fil des années. C'est-à-dire que je passe de plus en plus et de plus en plus vite à l'action. Parce qu'en plus, je me dis, bah, plus vite je fais, plus vite je teste. Et si ça marche pas, au moins je le saurai plus vite. Ça m'évitera d'attendre. Mais ce qui a fait que j'ai réussi à dépasser ou à traverser plutôt en fait cette peur parce que je l'ai pas dépassée, elle était là et elle restait là même une fois que j'avais fait ce que je voulais, tu vois. Mais c'est moi j'ai vraiment une valeur très 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 haute qui est celle de la liberté et je ne veux pas avoir de regrets. Et en fait ça devenait beaucoup plus inconfortable pour moi de ne pas le faire. Et de prendre le risque de regretter de ne pas l'avoir fait et de regarder les autres. Tu vois, je me souviens tu vois, de voir d'autres qui pouvaient faire, eux, et qui passaient à l'action et où je me disais, mais merde, pourquoi lui, il passe à l'action? Pourquoi elle? Et pourquoi moi, j'y arrive pas? Et je me souviens d'un truc que tu avais dit, tu sais, à Bréna, au stage de déménagement intérieur, où tu avais dit, mieux vaut un con qui avance qu'un intelligent qui réfléchit. C'était exactement ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, à un moment donné, au lieu de te dire, parce que tu, alors, je, bon, je, enfin, je digresse sans digresser, mais très souvent on dit, ah, il faut arrêter de se comparer, etc. Et en même temps, si je suis très très honnête, il y a plein de fois où je voyais des trucs sortir et je me disais, franchement, c'était pas terrible, quoi. Et ça m'a aidé aussi parce que j'ai ce truc aussi de me dire, OK, c'est bien, tu dis que c'est pas terrible, c'est facile, en fait, t'es derrière ton écran et puis, et toi, tu fais pas. Il y avait une petite voix qui me disait, bah, moi, je pense que je peux faire au moins aussi bien, voire mieux. Bah, allons le vérifier, en fait. Et donc, c'est aller me confronter à ça. Donc, c'est très inconfortable, mais en même temps, c'est moins inconfortable d'aller le vérifier que de rester à regarder d'autres personnes avancer, alors que moi, tu vois, j'avais l'impression de faire du surplace. Et donc, je me dis, bah non, moi, je ne veux pas faire du surplace. Et au pire, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vois, j'ai vraiment ce truc, ça, depuis toute petite. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, allons-y, et puis on verra bien.
Ouais, c'est ce que j'aborde un peu dans ma conférence, dont je parle souvent, c'est le rapport à la souffrance. Et donc, des fois, c'est souvent ce qui va bloquer les gens, c'est de chercher un truc qui va les mettre en joie, dans lequel ils vont se sentir bien, alors que ce que t'as fait toi, c'est de choisir entre deux souffrances et la moins mauvaise, enfin la moins désagréable. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et je pense que c'est un sujet qui est important de. Parce que très souvent, les gens qui osent pas poster, etc., ils vont dire, ah, mais j'ose pas. Ils ne sont focalisés que sur une souffrance, celle de poster et d'être jugé, d'être critiqué, mais pas sur toutes les potentielles qui sont autour, celles à moyen et à long terme. Vaut mieux, comme tu dis, moi aussi, on dérive un peu, mais c'est pas grave, c'est l'idée de. Vaut mieux souffrir de poster maintenant, d'être jugé et critiqué, que dans 3 ans, d'abandonner parce qu'on n'a pas de clients, parce qu'on n'a pas accompli ses rêves, et de pouvoir relativiser, mettre en perspective toutes ces. Les souffrances du présent avec les souffrances potentielles et celles qu'on ne veut pas regarder. Je pense que c'est un truc qui aide beaucoup à passer à l'action comme tu as fait. Et comme tu dis, c'est pas dépasser les peurs, c'est passer au travers et faire quand même, quoi. Et donc.
Effectivement, il y a ce rapport entre ces deux souffrances, mais tu disais souvent les gens cherchent la joie à trouver quelque chose à faire. Mais oui, il y avait ces deux souffrances, mais par contre, j'étais très connectée à ce que ça allait m'amener. Et ça, c'est un truc qui me drive très fort aussi, tu vois, d'avoir foi en
Oui,
là où j'ai envie
il faut
d'aller.
les deux.
Je sais pas trop. Et voilà, faut les deux. Je sais pas trop quel va être le chemin, mais en fait, mon envie d'y aller et de vivre ce que j'ai décidé de vivre, en fait, à un moment donné, est tellement fort que ça me permet aussi de passer au-delà de cette peur, enfin, ou tu vois, ou de traverser ce truc-là, quoi.
Oui, c'est le. Tu dis y aller, mais je savais pas trop où aller. Tu avais une direction pour le moment, de devenir formatrice, la liberté, être libre, c'est un truc. Ce que moi j'appelle le mode de vie, souvent qui tient en une phrase. Et donc, il y a une étude qui a été faite, j'ai écouté ça dans un podcast, je ne sais plus trop où, sur les rats, et ils voulaient savoir si c'était. Ils mettent, y a un petit tunnel, les rats sont attachés dans le dos, et on met un bout de fromage au bout du tunnel. Et ils mesurent la pression mise sur l'attache par le rat quand il s'agit d'aller vers le bout de fromage. Okay. Et ensuite, ils font pareil, mais avec un chat à l'entrée du tunnel. Tu vois? Donc, le rat met beaucoup plus, ce qui paraît logique quand on le dit, mais c'est vrai aussi pour nous, il met beaucoup plus de pression sur la laisse, enfin sur la tâche, quand il y a un chat derrière, que pour aller chercher du fromage. Ce qui paraît logique.
Et
tu vois ce que je veux dire? Et donc, la fuite
ouais,
de quelque chose qui fait peur, qui fait souffrir, est beaucoup plus efficace, c'est ce que j'ai dit à ma conférence, que d'aller vers quelque chose. Mais ce qu'on ne voit pas, quelque part dans cette étude, c'est qu'il y a un tunnel, donc il y a une direction. Qui mène
ouais,
vers quelque
fait.
Chose. Et Alex Hormozzi, je crois que j'écoutais, qui parlait de cette idée-là, et il disait quand on ne sait pas où on veut aller, il ne faut pas passer des années à savoir où on va, il faut se connecter à ce qu'on veut fuir, ce qu'on ne veut plus. Ce qu'on a, c'est je change de métier parce que j'en ai marre des institutions, dans ton cas, tu vois. Moi, j'ai quitté l'informatique parce que j'en ai marre des réunionnites, des trucs qui ne servent à rien. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais tu m'aurais dit quand j'ai commencé, bah tu feras des formations en ligne, des trucs, tu auras des podcasts. Pour moi, c'était du chinois, c'était même pas dans mes concepts. Comme toi, quand tu as commencé, tu n'avais pas forcément les concepts de formation en ligne qui sont venus en te formant, en apprenant, en découvrant des choses, qui sont connectés probablement à des choses qui te faisaient envie, que tu savais pas que tu avais envie à l'époque. Tu vois. Donc, bref, je dérive, je parle un peu tout seul, mais c'est parce que je pense que beaucoup de gens qui peuvent écouter ce podcast, qui débutent ou qui savent pas trop, qui cherchent leur place, là où ils veulent aller, au lieu de chercher où tu veux aller, il ferait mieux de chercher ce qu'ils ne veulent plus et ce qui permet de dépasser des peurs, des trucs plus facilement et de passer à l'action assez vite. Ce qui est un problème aussi par moment. Moi, typiquement aujourd'hui, j'ai une vie plutôt tranquille, je suis bien. J'ai pas un truc que je veux plus, puisque j'ai ce que je veux. Tu vois. Et donc, j'ai plus, depuis quelques années, j'ai moins ce truc que je suis. Et donc, c'est plus difficile pour moi de passer à l'action, de faire des trucs. Bon, j'ai parlé tout seul, je suis désolé, mais ça m'a fait penser à tout ça. Et je pense que, comme c'est un sujet moi, qui me tient vachement à cœur, et que ça transpire dans ce que tu racontes de ton parcours. Je me suis dit que c'était intéressant d'en
parler. T'as tout à fait raison. Hein. Et tu vois, en t'écoutant, je m'aperçois que même quand j'étais salariée, j'ai souvent changé d'institution. Et régulièrement, on me disait « Oh là là, mais t'as quitté un CDI !» Tu vois, les gens ne comprenaient pas. Et en fait, c'est vrai que moi, je peux me lasser assez vite. En fait, j'ai besoin de nouveautés, de challenges. Et donc, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour du truc, il faut que je me renouvelle ou qu'il y a un truc qui se renouvelle, sinon je m'ennuie. Et en fait, c'est comme si depuis petit, finalement, tu vois, tu fais 3 ans de maternelle, tu fais 5 ans de primaire, le collège, Donc, tous les 4-5 ans, tu changes. Et en fait, quand tu arrives dans la vie adulte, pour moi, c'était impensable de me dire, attends, là, en fait, chaque fois, tu changes d'environnement et c'est chouette, tu découvres de nouvelles choses. Là, je ne vais pas aller m'enfermer dans un truc parce que j'ai assez en CDI pendant 20 ans, 30 ans. Ça me paraissait inconcevable. Et je pense que c'est un fonctionnement qui est là depuis toujours, en fait, et qui me permet aussi d'y aller et vraiment de passer à l'action. Même si, bien sûr, que j'ai la trouille. À chaque fois que je lance un nouveau truc, j'ai la trouille, mais ça vaut le coup.
Ouais. Et c'est un truc qui revient dans quasiment tous les podcasts que j'ai fait jusque-là. Le truc que c'est là depuis longtemps. Et en fait, ce qu'on fuit, le chat, tu vois, il est là généralement plus assez tôt. Et je pense que c'est un vrai travail d'exploration, de s'y reconnecter. Et aussi, ce qui nous anime, toi, le truc sur... sur les enfants, sur les ados, l'éducation des enfants, enfin tout ce qui va tourner autour de ce sujet-là, c'est un sujet qu'elle a chez toi depuis longtemps, mais à la base, ça reste une souffrance, et donc un truc qu'on veut fuir, qu'on veut réparer, qu'on veut compenser, et qui puis après va se connecter à des projets de vie, des envies, des désirs, mais c'est souvent les deux en même temps, et pas que l'un ou l'autre. Sur un autre sujet, parce que j'ai peur d'oublier, et puis le temps passe, tu t'es intéressé beaucoup au marketing, ça t'a beaucoup plu, et il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, toi, qui disent, moi je veux pas faire marketing, la vente, nanana, c'est toi. Et toi, quand on t'écoute, on te dit, attends, t'es éducateur spé, tu travailles avec les enfants, tu fais de l'accompagnement, qu'est-ce que tu as trouvé, tu vois, dans le marketing, dans la communication, c'est quoi la connexion entre les deux, pour toi?
Le mot qui me vient, en fait, pour moi, le marketing, c'est mettre en valeur ce que tu proposes. Et je trouve ça trop chouette par rapport à ça, parce que c'est... Je comprends pas, en fait, qu'on puisse se dire marketing, accompagnement, ça va pas ensemble, mais enfin non, en fait, ne pas faire de marketing, c'est déjà en faire un, mais que tu choisis pas, tu vois. Moi un truc qui me drive aussi beaucoup, c'est on a toujours le choix, en fait, tu vois. Donc c'est choisis comment tu veux communiquer, choisis ce que tu veux faire, choisis ce que tu veux mettre en valeur. Et le marketing, quand tu comprends les principes, mais c'est comme n'importe quel outil, hein, c'est comme l'hypnose, c'est comme choisis comment tu as envie de l'utiliser. Pour mettre en valeur ce que tu proposes, en fait. Parce que à un moment donné, quand t'accompagnes les gens, tu vois, moi, si je me reconnecte à pourquoi j'ai démarré dans l'accompagnement en tant qu'éduxpé, et ce qui m'a guidée très fort, c'est vraiment ce truc. Déjà, je suis quelqu'un de très optimiste depuis petite. Je vois toujours le côté plein de la bouteille, tout le temps. Et c'est cette idée de se dire, on a toujours le choix, en fait. Parfois, on a deux choix bien pourris, mais on a quand même le choix. Et souvent, on fait le choix de pas choisir, mais c'est aussi un choix, mine de rien. Et donc, par rapport au marketing, pour moi, c'est pareil. C'est qu'est-ce que tu choisis de mettre en valeur, parce que si tu as envie... je me suis auto-perdue. Je disais ce truc d'avoir toujours le choix, c'était quelque chose que moi c'était un message que j'avais envie de porter, en fait, auprès de tous les enfants que j'ai accompagnés, de dire ok, tu vas pouvoir aussi tu vas pouvoir poser des actions qui vont faire que tu vas avancer dans telle ou telle direction, tu vois. Mais et pour moi le marketing, c'est aussi pouvoir l'utiliser pour mettre en valeur ce qu'on propose. Parce que quand on accompagne les gens, c'est parce qu'on a envie de les accompagner, on a envie de proposer quelque chose de chouette, on a envie, peu importe ce qu'on a envie de faire avec ça. Mmh. Mais bon sang, utilisons des outils qui existent et les principes du marketing pour mettre ça en valeur, et que les gens qui en ont besoin puissent l'utiliser, en fait.
Je me marre parce que ça t'énerve.
oui, ça m'énerve.
Je pense que c'est un truc que j'ai beaucoup dit aussi, c'est l'absence de marketing et du marketing. C'est comme la com, tu ne peux pas ne pas communiquer.
Complètement d'accord.
Et donc, si tu n'en fais pas et que tu ne t'intéresses pas au mécanisme, à comment ça marche, elle t'en fait quand même. Et donc, sauf que tu en fais de la merde. Sauf si tu as un talent naturel là-dessus, mais c'est quand même assez rare. Et donc je pense que c'est bien de s'intéresser à ça. Puis, moi je trouve qu'aussi dans le marketing, dans la com, il y a, comme toi, ça peut te donner envie de faire des projets, des trucs qui étaient qu'on connaissait pas, parce qu'on connaissait pas forcément ce qui est possible de faire avec ces outils-là. Et puis c'est un truc, pour moi c'est un peu comme l'écriture, le storytelling, la construction de personnages. Pour faire du marketing correct, éthique, etc., il faut se connecter à qui on est, à l'humain, savoir parler aux gens, leur donner envie, les toucher. Après on peut sombrer si on a envie dans la manipulation et l'influence comme il y en a qui le font, mais c'est mettre en avant ses idées. Alors là-dessus il y a un truc qui me questionne, c'est que moi, je t'ai vu pas mal évoluer aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un problème avec le marketing et la communication. Pas parce que c'est le marketing et la communication, c'est se mettre en valeur eux. Donc, ce que tu évoquais tout à l'heure, la peur du jugement, la peur de la critique. Comment toi, tu as géré ça? Comment tu fais la différence entre... Parce que là, tu dis, le marketing, c'est mettre en avant ce qu'on fait. C'est pas forcément ce qu'on est, tu vois ce que je veux dire? Et donc, quelle est la... Comment toi, tu as évolué là-dessus? Parce que moi, je t'ai vu bouger, c'était pas du tout la même énergie par rapport à ça, depuis que tu as lancé KiddyMind, notamment. Il y a un truc qui a switché, peut-être que je me trompe, hein, mais qui se sent de loin, et que je trouve qui a changé complètement ta posture, ton attitude, ta vision du monde, et voilà, il y a un truc autour de la peur du jugement, de la critique dont tu as parlé tout à l'heure. Tu l'as dépassé en passant à l'action avec ce qu'on a déjà évoqué, mais tu vois ce que je veux dire avec ma question, c'est comment tu as évolué là-dessus? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à mieux le gérer, à mieux le vivre, à mettre plus en avant, entre guillemets, qui tu es sans tomber dans la vente de merde? C'est quoi ton chemin, ton point de vue par rapport à ça? Ce qui peut aider peut-être les gens qui sont enfermés dans ces problématiques aujourd'hui?
Ouais. Alors déjà, pour revenir sur le, quand je dis le marketing, c'est mettre en avant ce qu'on fait. On pourrait ajouter derrière, au travers de qui on est, bien évidemment. Mais en fait, pour moi, c'est important de repartir de mettre en valeur ce qu'on fait. Parce que tu vois, très souvent, on entend « Ah, mais j'ai du mal à me vendre ». Et il y a cette idée qu'on va se vendre soi. Bien sûr que tu incarnes ce que tu proposes et que... Mais en fait, je trouve que la sémantique, là, est vraiment importante et c'est intéressant de s'y arrêter parce que dire « je vais me vendre », c'est comme si tu associais finalement ta propre valeur personnelle, identitaire presque, tu vois, à ce que tu proposes. Et pour moi, il y a quand même un truc qui est à différencier là. Et c'est peut-être aussi ce qui n'aide pas les personnes qui sont prises dans cette difficulté. Réussir à se dissocier, en fait, dire ok, il y a moi, il y a la personne, il y a qui je suis, il y a ce que je propose, il y a la manière dont la personne s'en saisit, il y a la manière dont moi, avec qui je suis, je vais incarner ce que je propose. Mais c'est important de prendre conscience aussi de toutes ces dimensions là tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, là où Philippe Gabran disait c'est toujours le moi personnel qui est adossé au moi professionnel, et t'es sans arrêt en train de jongler avec ces deux casquettes-là. Et voilà, je pense qu'il faut en être conscient. Parce que ça a un impact sur la posture, etc. Quant au switch sur la peur du regard des autres, clairement, ce qui aide, c'est de passer à l'action et de voir que finalement, ben, il se passe pas grand-chose. Et puis après, il y a eu un avant-après aussi, un gros switch pour moi quand j'ai fait la première cohorte de KiddyMind en 2020, où j'enregistrais les vidéos dans mon cabinet, et puis à un moment donné, dans le cabinet d'à côté, il y avait trois nanas qui parlaient, qui riaient hyper fort, et donc je mets pause et je m'agace toute seule devant ma caméra en disant putain mais c'est pas possible, le boucan qu'elle fait, y en a marre. Donc voilà, je m'agace, et puis au moment de rappuyer sur record, je me regarde dans la webcam, je vérifie si j'ai rien entre les dents, je me recoiffe, je relance le truc.
T'as pas coupé.
Et bien évidemment, c'est la seule. Voilà, c'est la seule vidéo que je ne vérifie pas. Et je balance ça parce qu'elle recevait les vidéos au fur et à mesure. Et puis je me réveille le lendemain matin. Et puis là, je reçois un mail, deux mails, trois mails qui me disent écoute, vraiment super, le contenu trop bien et tout. Mais va voir à la minute temps. Je pense qu'il y a un truc à couper. Et donc là, je suis envahie. J'aurais voulu entrer dans un trou de souris parce que je sais bien de quoi elle parle.
Et je me dis, cœur s'est arrêté quelques secondes,
j'ai pas pu oublier. Ah ouais, c'est ça, quelques minutes. Ouais. Horrible. Et donc quand je suis retournée voir, mais j'étais tétanisée. Ouais, je crois qu'il y a pas. Tu vois, j'ai encore. Là, j'ai dû couper ma caméra, mais je sens que ça me secoue encore, tu vois, dans le corps. Et donc derrière, on avait un live quelques jours plus tard et j'étais hyper mal à l'aise. Pour moi, c'était vraiment un truc horrible, tu vois, en plus de m'être montrée, tu vois, sous ce jour de celle qui s'énerve, et en fait, toutes les collègues m'ont été mortes de rire. Elles m'ont dit, putain, mais c'est trop bien, en fait, qu'on ait vu ça, parce que voilà, ça nous montre que c'est pas un truc tout lisse, tout parfait. Et donc, je les en remercie, là, les collègues, si vous m'écoutez sur ce podcast, parce que il y a eu un avant et un après pour moi sur la peur du jugement et de la critique, parce que j'ai coupé la caméra après le Zoom et je me suis dit, Ok, c'était complètement ridicule cette séquence que j'avais laissée, mais ça va, je suis pas morte. Il s'est rien passé d'horrible et puis je vais continuer ma vie et puis plus personne n'en parlera, bah, à part moi qui en parle encore 4 ans aujourd'hui, tu vois. Mais parce que il y a eu un avant après, clairement.
D'ailleurs sur tout ce qui est rejet, jugement et les prescriptions de tâches, c'est il y a un TED Talk où qui parle de ça où il dit je suis allé chercher 100 rejets et TED Talk est pas mal. Mais le principe c'est d'aller les chercher exprès et de voir qu'en fait il se passe rien. Moi l'expérience qui m'avait marqué c'était plutôt dans la rue où on faisait un jeu avec des collègues à l'Arche et c'était d'aller chercher le non justement pour se confronter au rejet et à la critique et donc d'aborder des inconnus dans la rue et de leur demander des trucs impossibles, tu vois. Il fallait que les gens disent non, tu vois. Il fallait le faire avec au moins 10 personnes. Moi sur 10 personnes, je crois qu'il y avait 8 personnes qui m'avaient dit oui et c'est des trucs on marchait dans la rue, pas loin de la gare du Nord, gare de l'Est et c'est je croise une nana, je dis bonjour, on se fait un câlin, tu vois. Donc, c'était il y a 10-15 ans, hein, mais nana, je me souviens, elle marchait dans la rue, elle mangeait un sandwich, c'était l'heure de déjeuner, j'ai dit bonjour, il a l'air sympa votre sandwich, je peux goûter, elle m'a donné le reste de son sandwich. Comme ça, but en blanc, hein, tu vois.
Énorme.
Et pas dans la peur, pas dans la peur, c'est pas une énergie de peur qui était là, je vous le donne parce que j'ai peur, tu vois. Je pense pas que ce soit ce que je dégageais non plus, tu vois, mais il fallait rester cohérent dans qui on est, etc., sans être complètement débile. Et moi, mon plus gros challenge, ça a été, je me souviens, c'était Gare de l'Est, il y avait un groupe de mecs, alors c'est la caricature des gars de la banlieue, toi, du 9-3, la casquette, machin, tu te dis, voilà, je vais là, je suis pas sûr de revenir. Et c'était une dizaine, les gars, et donc c'est pas grave, j'y vais quand même, si je meurs, tant pis, j'aurais essayé, et donc j'y vais. Et je leur dis, et je prends celui qui me paraissait à moi le chef, tu vois. Et pareil, j'y vais, et je dis, salut, vous avez l'air sympa, les gars, on se fait un câlin. Et le mec, il m'a pris dans ses bras.
Et
là, il y a toute ma perception des gens, des clichés, de plein de trucs, tu vois, qu'on bougeait d'un coup, sur ce moment-là. Et ça m'a vachement aidé après. Alors, toujours peur, t'entends du jugement, de la critique, tu vois, mais c'est vachement plus faible. Parce que tu dis, en fait, les gens, ils s'en foutent. Soit ils s'en foutent, tu vois, parce que ceux qui m'ont dit non, je les ai oubliés dans la minute, et probablement qu'ils m'ont oublié dans la minute, ou alors qu'ils sont rentrés, j'ai croisé un mec bizarre dans la rue, et au pire, ça les a fait marrer. Soit ils sont vraiment sympas, quoi. Ça m'a vachement aidé. Et c'est de ce jour-là que je me suis mis un petit challenge, parce que moi, je parle pas trop avec les gens, tu vois, je croisais des gens dans l'ascenseur, je disais pas bonjour. Je me disais, à chaque fois que je croisais un voisin, je vais essayer de faire une blague, de dire un petit truc rigolo pour égayer un peu leur journée, pour créer du truc, tu vois. Et ça a radicalement changé mon rapport aux gens dans la rue, aux inconnus, qui m'a vachement aidé. Enfin, et donc, ça me fait penser à ça. C'est ces moments où on se dit on va avoir l'air con, ridicule, et qui sont en fait des moments qui sont libérateurs. Je trouve que ça va plus vite que de le bosser en thérapie pendant 15 ans à rester assis sur une chaise. Mais la prescription de tâches comme ça, un truc qui peut être sympa. Moi, je voulais partager l'expérience où c'est vraiment un truc qui m'a marqué comme toi. Et quand j'y pense encore aujourd'hui, j'ai encore la trouille d'approcher les gars et de me dire les mecs, ils m'ont tapé dessus, tu vois. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Mais la nana avec son sandwich, ça m'a vraiment retourné le cerveau, quoi. T'imagines, son sandwich et tout.
Ah, c'est énorme.
Donc,
énorme. Ouais, c'est énorme. Non, mais c'est sûr que c'est génial hein, d'être confronté à ça. Ou d'aller se confronter, donc, ça fait bouger plein de choses, c'est sûr.
Ouais, ça résout pas les problèmes. J'ai quand même mis du temps après à me mettre à la vidéo, mais ça, c'est sur d'autres sujets. Mais c'est bref, on a un peu dérivé, mais voilà, je pense que c'est des sujets qui sont importants et essentiels. Donc t'as dépassé ça comme ça. Je regarde le temps qui passe, mais
j'ai dépassé ça, voilà. Ça me paraît. Ouais, je te disais, j'ai dépassé ça, mais ça me paraît important de préciser que j'ai toujours la peur quand je lance un truc. C'est plus faible comme toi, tu vois, mais ça n'a pas disparu, tu vois. J'ai lâché ce truc-là, et voire même en fait pour moi c'est même un bon signe. Hein, tu vois, j'écoute beaucoup plus mes sensations, mon intuition et tout, et mes émotions bien évidemment. Mais voilà, ça ne m'empêche plus. Tu vois, c'était l'intensité de l'émotion en fait qui était problématique avant où j'osais pas y aller. Là maintenant c'est plus faible, donc je me dis ok, c'est là, c'est pas confortable, mais j'y vais quand même. Voilà, mais ça n'a pas disparu.
Ouais, c'est toujours là. C'est pareil, quand je lance un truc, quand je vais en stage, j'ai toujours cette... Il n'y aura personne, sans intéresser personne. Toujours. Et je pense que ça énerve les gens qui me connaissent, dont toi, je pense, mais ça va marcher de toute façon. Ouais, mais moi, je l'ai toujours, beaucoup moins qu'avant, mais c'est toujours présent, et je pense que c'est plutôt sain, et de chercher à l'enlever complètement, je pense que c'est une erreur.
Ce qui m'a aidé aussi, c'est de rentrer dans le Mastermind 67, parce que j'ai côtoyé des entrepreneurs que je suivais, des infopreneurs que je suivais sur le web depuis un moment, et donc qui me paraissaient, et qui le sont, hein, mais tu vois, je me disais, waouh, tu vois, c'était des gens inatteignables pour moi à plein de niveaux. Et déjà, rentrer dans le M67, c'était un énorme challenge pour moi, parce que je me souviens quand Romain Collignon a créé ça, il y avait tous ceux que je suivais sur Internet. Et donc, même pas à l'époque, j'imaginais pouvoir un jour rentrer dans cet écosystème-là, tu vois. Et puis, quand j'ai lancé KidiMind et que je continuais à suivre Romain, etc., je suis d'abord rentrée dans l'incubateur 56. Et donc là, tu dis, waouh, je suis quand même rentrée dans cet écosystème. Enfin, tu vois, il y avait un truc où est-ce que j'y ai vraiment ma place ou pas? Et puis derrière, bah, le M67, où je me suis pas toujours senti à ma place, mais ça, c'est à moi de le bosser aussi, hein, tu vois, c'est que j'avais du mal à réaliser peut-être aussi le chemin que j'avais déjà fait. Et puis, parce que tu avais quand même aussi des collègues du Mastermind qui faisaient ça depuis plusieurs années, qui généraient pas loin d'un million d'euros, etc. Mais de les avoir côtoyés, je me suis rendu compte finalement qu'on n'est pas différent sur... bien sûr qu'il y a des différences, mais... C'est pas un truc inatteignable, en fait. Tu vois, ça m'a beaucoup aidé, parce que tu te dis, bon, bah, finalement, c'est un être humain comme moi, il a les mêmes peurs que moi, il a les mêmes doutes que moi. Et ça, c'est très aidant, je trouve.
Ouais, parce que moi, j'ai vécu quand j'allais faire le séminaire de ClickFunnels aux États-Unis, à Nashville. Là. On était une dizaine, on avait loué une maison, il y avait des gars qui brassaient des millions, qui étaient dans le milieu depuis un peu comme dans le Mastermind 67. En fait, des fois, je leur donnais des tips, je les aidais un peu bosser sur eux. L'un était venu me parler du couple, ses problèmes de couple et tout. Je me dis, en fait, les gars que je connais, que j'admire de loin, c'est des êtres humains. C'est aussi un peu le but de ce podcast-là, d'Atypique, c'est que les gens reconnectent à l'humain qui on est, qu'on a tous à peu près les mêmes problématiques, qu'on les vit différemment et qu'on les traverse d'une façon différente. Mais c'est vrai que je reconnecte à ça. Se rappeler que c'est atteignable, que c'est humain, et puis peut-être sortir. Je trouve que la comparaison, dans ce sens-là, elle peut être saine dans certains moments, elle peut être très limitante dans d'autres. Et il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se comparer, je pense que c'est une erreur. Parce que ce que toi, tu as vécu dans le Mastermind 67, c'est une forme de comparaison. Tu te dis, en fait, finalement, pour pouvoir se dire finalement, ils sont comme moi, il faut avoir comparé. Et donc, elle est saine. Mais des fois, elle a ses limites.
Oui, et puis je trouve que de. Je trouve que de côtoyer aussi des gens, tu vois, moi, voilà, déjà, parce qu'on entend beaucoup, oui, il y a beaucoup d'arnaques, toutes ces pubs qui vous vendent du rêve, etc. Ok, bien évidemment qu'il y a plein de pubs qui vendent du rêve, mais je crois que c'est pas nouveau. Après, c'est à chacun aussi de faire le tri. Et en fait, je suis un peu agacée par ce discours, tu vois, où en gros maintenant, rien n'est bon à prendre dans les discours qui peuvent vendre du rêve. Et je trouve ça un peu agaçant, parce que moi, ce qui a fait que je me suis accrochée et que j'ai développé KidiMind notamment, c'était justement parce qu'on m'avait vendu du rêve d'une certaine manière, et que j'y ai cru, et que je me suis dit, ok, lui, il l'a fait, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire, en fait. Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place pour le faire? Et quand tu te retrouves aussi, là notamment dans le Mastermind, avec des gens qui sont beaucoup plus avancés que toi, mine de rien, ça te donne un goal, en fait, tu vois, où tu te dis, ok, à la prochaine étape, c'est peut-être pas jusque là-bas, mais peut-être un jour que oui, tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant, mais c'est aussi mon goût du challenge, tu vois, de me dire, il y a encore une étape après, et puis deux, et puis trois. Et je trouve ça très inspirant et pas limitant, en fait.
Oui, je pense que tu mets le doigt sur un truc qui est vachement important. Si on oublie ce que tu viens de dire là, de, de se connecter, que oui, c'est possible, que c'est peut-être un rêve, ça paraît lointain, éloigné. On t'aurait dit quand t'étais d'UXP, dans quelques années, dans 10 ans, j'en sais rien, t'auras des programmes en ligne, tu pourras travailler partout dans le monde et tu gagneras très bien ta vie. T'aurais probablement rigolé. Tu vois, et donc, c'est le rêve était
trop
loin.
Ah oui, ça m'aurait paru. Ouais, c'est ça. Mais ça me
mais en même temps,
même
ça donne envie.
Pas possible. Mais c'est ça, exactement.
Ouais, on revient à l'histoire des rats tout à l'heure. Il faut un chat, mais il faut aussi du fromage. Et un tunnel.
Bien sûr.
Et donc, moi, c'est un truc sur lequel je reviens doucement, là, de me reconnecter à mes rêves. Enfin, c'est enfin, toujours l'écriture, le truc. Et je me dis, voilà. Mais il y a plus... cette joie de l'enfant, du tout est possible, on peut y arriver, et je pense que c'est en train de revenir. Et d'où la création du podcast, de plein de trucs. Je pense que ça aide aussi de s'entourer de gens qui font des trucs, qui osent, qui se lanquent, et qui ont un regard différent, une façon de passer à l'action différente, qui est toujours chouette et inspirante. Donc à la base, ce podcast, c'est pour moi. Et je pense que c'est aussi un truc important.
ouais.
Non mais c'est vrai, de faire les choses... pour soi, moi un des trucs qui m'anime, j'en parlais, je crois, c'était dans le podcast avec Agnès, justement, de la rencontre, de rencontrer des gens différents, qui viennent d'horizons différents, qui ont vécu des trucs différents. Probablement que si tu t'étais pas mis à l'hypnose et moi non plus, on serait jamais rencontrés, on serait peut-être vu en soirée, on serait jamais parlé, tu vois, alors qu'en fait, on se connaît depuis longtemps et on échange, on discute, on partage nos projets, nos envies, nos idées, et c'est chouette. Et donc, de se reconnecter à ça et je vais terminer avec ça parce qu'on a traîné un peu, mais c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé dans mon expérience que, à un moment donné, je me suis oublié un peu dans le marketing et la com. Tu vois, c'est en fait à trop apprendre de trucs. Et juste, l'inconvénient aussi, c'est d'oublier un peu l'essence de pourquoi on fait les choses à la base. Moi, quand j'ai commencé Hypnoscient, je connaissais rien au marketing. Tu vois, ça m'intéressait pas. Je voulais juste partager, écrire des trucs. Donner, prendre des notes en public. Il n'y avait pas cette notion de communiquer, mettre en avant ce que je fais. Parce que les gens, pas forcément l'historique, mais les premiers sites, les premiers trucs d'hypnoscience, c'était tout moche, ça ressemblait à rien, c'est complètement nul, tu vois. Et donc, j'ai l'impression, je réfléchis à voix haute, c'est aussi l'intérêt du truc, c'est que j'ai l'impression que ça a bougé certaines intentions au mauvais endroit, ce qui peut créer des freins et des limites, et plus... et toi, de faire les choses parce que ça nous met en joie, parce que c'est là que viennent nous chercher les gens. Toi, tu as créé KidiMind parce qu'on est venu te chercher sur comment faire X ou Y, tu vois, comment tu fais ça. Et c'est plus dans je le fais parce que il faut, parce qu'il faut faire ci, parce que c'est les règles, parce que c'est les principes. Et ça décale les intentions et c'est plus un fromage qu'on poursuit, c'est une crotte de chien. Tu vois. La métaphore est pas bonne, mais. Je pense qu'on comprend tu comprends ce que je veux dire. et peut-être ça aussi qui fait peur aux gens, tu vois, de sombrer dans le marketing, d'enlever leur intention d'accompagner les gens, d'être dans l'humain, etc. Et je pense qu'on peut faire les deux, et c'est bien d'être vigilant, mais pas de rejeter complètement les outils de com et de marketing, mais pas non plus d'oublier pourquoi on fait les choses, quoi.
Oui, c'est ça. Je crois que ça part de là. De pas oublier pourquoi on fait des choses. Et si et on peut avoir les meilleures intentions du monde, si personne ne le sait, on n'aidera personne. Donc, partant de là, en fait, pour moi, ça ne devrait pas s'exclure l'un l'autre. C'est pas... en fait, pour moi, tout est lié. Et l'intention, tu peux aussi la mettre dans ton marketing. Et puis, après, tu vois, moi, je vois sur Instagram, je suis très irrégulière. Alors pourtant, je dis, voilà, qui veut l'entendre, soyez régulier. Mais parce que je vois bien que quand je publie de manière plus régulière, il y a d'autres résultats. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à créer un truc pour créer un truc. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Justement parce que je pense que j'ai besoin de rester connectée à l'intention, en fait, dans ce que je fais. Et donc... là, pour le coup, peut-être que mon marketing et ma com souffrent de mon de mon envie de mettre de l'intention, ouais. Justement parce que j'ai encore pas un processus très très rodé, qui, voilà, même si je me dis que ce serait bien. Il faudrait que je le délègue parce que moi je sens bien que on touche à une limite chez moi. Mais ça, c'est encore autre chose d'arriver à le déléguer tout en gardant l'intention. Ça, c'est, voilà, ça me paraît compliqué.
Ouais, c'est complexe.
Mais voilà, mais pour moi, les deux, je trouve ça dommage qu'on les oppose en fait parce que tu vois, ce que je disais tout à l'heure rapidement, c'est que quand je suis passée de l'institution à ma première séance et puis à toutes les suivantes, moi, c'est venu, mais comme la plupart d'entre nous, je pense, quand on s'installe en libéral, c'est venu me bousculer très fort, bien évidemment, sur la valeur de ce que je propose, ma propre valeur, mon rapport à l'argent. Et donc, ça, c'est des trucs que je ne connaissais pas. Je veux dire, en institution, tu accompagnes des personnes qui sont là, qui ne payent pas parce que c'est financé par le département, la région, les ARS, etc. Et tu n'es pas la variable du temps que tu mets pour accompagner. Elle rentre beaucoup moins en ligne de compte parce que tu te dis pas ou le parent va pas te dire mais ça va prendre combien de séances et toi tu vas pas te dire merde ça craint j'ai fait 4 séances ça a pas bougé. Quand t'es en institution ça prend tant que ça prend et puis ouais, voilà c'est... tu vois. Et donc je pense que quand t'es en libéral bah forcément tu dois faire avec cette dimension de vendre ce que tu proposes en fait. Il n'y a pas à tourner autour du pot 107 ans, en fait. Donc, c'est un truc qu'on ne dit pas assez, de toute façon.
Je pense que c'est, pour résumer un peu ce que tu dis, reprendre les idées, c'est très thérapeutique de s'intéresser à la com au marketing, parce que ça fait explorer des sujets, comme tu dis, bah, le rapport à l'argent, la posture, le machin, la communication, ce qu'on met, ce qu'on fait, qui sont des sujets. Moi, c'est pareil, ça m'a fait beaucoup bouger. Probablement plus de lire des trucs sur le marketing et la com que sur, et les questions que ça pose derrière, et des fois les biais dans lesquels on peut aller, qui sont des sujets qui font pas mal, enfin même beaucoup bouger, probablement plus que certaines séances de thérapie. On va bientôt arrêter là. Je termine avec une question que je pose dans tous les podcasts. C'est si tu avais un gigantesque panneau d'affichage, n'importe où, avec n'importe quoi écrit dessus, que dirait-il et pourquoi?
J'hésite entre deux. Il y aurait un truc autour de tout est possible et on a toujours le choix, mais en fait, juste balancer comme ça sur un panneau d'affichage, je ne sais pas si ce serait très utile. Je pense qu'il y aurait plein de gens qui diraient ah, mais n'importe quoi. Donc je sais pas. L'autre, c'est une citation de que j'avais entendue dans un TEDx. Je crois que c'est Xavier Dolan qui dit tout est possible pour qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Peut-être que c'est cette phrase là que je mettrais parce qu'en fait je crois que je le vis tous les jours ça parce que je rêve beaucoup et j'adore ça de pas me mettre de limites. J'ose de plus en plus et ça c'est très chouette. Je bosse énormément et j'en prends de plus en plus conscience là avec la formation d'expansion où je me dis waouh tout ce que je dois raconter pour essayer d'expliquer tout ce que j'ai mis en place et là je réalise tout ce que j'ai mis en place en fait tout ce que j'ai appris et n'abandonne jamais. Ça oui je pense que c'est aussi une grande force c'est ma persévérance. Donc ce serait probablement c'est ce clair. Message-là que je mettrais.
En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est à peu de choses près le même que Chloé Elsener. Je trouve rigolo.
Ah,
parce que
bah, écoute, deux, on ne s'est pas concerté.
Non, à peu de choses près. Il y a des nuances, mais comme vous êtes toutes les deux formatrices et tous vos programmes en ligne, et tout ça, je trouve que ce n'est pas inintéressant d'en retenir quelque chose de ce message pour ceux qui nous écoutent.
Ouais.
On va arrêter là, mais voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir. On part un peu dans tous les sens, mais bon, bref, très content de t'avoir eu. Isabelle, merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très vite.
Merci Laurent, c'était très chouette. À bientôt.